7h47 minutes, on est à moins 9 degrés sous les nuages, faible neige qui tombe par endroits. Le maximum qu'on va atteindre cet après-midi, c'est un moins 4 degrés. Il y a 60 % de possibilité d'averse de neige. La neige comme telle qui va commencer plus ce soir et cette nuit parce que demain, moins 3 comme maximum et c'est 2 à 4 cm de neige côté accumulation. C'est nuageux mercredi avec un moins 6 degrés et 60 % de possibilité d'averse de neige pour jeudi avec un moins 8 degrés.
La circulation présentée par Eurospec.
Vous conduisez une européenne? Pour tous vos besoins, mécanique générale, performance, alignement, entretien, pensez Eurospec. Euro-spec.ca.
L'accès vers le pont de Québec direction sud via l'échangeur du boulevard Laurier, hauteur Henri IV. Un accident le bloque la voie de gauche présentement. Remorquage qui est en cours depuis quelques minutes. Henri IV sud, hauteur de l'avenue industrielle, la voie de gauche qui est bloquée par une panne. D'ailleurs, secteur des ponts, donc assez compliqué ce matin pour passer de la rive sud à la rive nord par le pont Pierre-Laporte. Capitale Ouest, ça s'est compliqué pas mal dans les dernières minutes entre l'avenue du Bourg-Royal et je vous dirais la première avenue. Robert Bourassa Sud, là, assez compliqué pour aller rejoindre le boulevard Le Bourgneuf. Sinon, ben Henri IV, là, on est retourné pas mal dans l'habituel entre l'avenue industrielle et le boulevard Chauveau par endroits assez complexes en direction sud. Donc la congestion, le trafic habituel qui est vraiment de retour cette semaine. Dans les nouvelles, Claude Villeneuve se lancera dans la course à la mairie de Québec face à Bruno Marchand. Le soleil qui confirme ce matin ce que M. Villeneuve avait pas mal sous-entendu sur nos ondes vendredi matin sans vouloir le confirmer, alors qu'il avait mentionné qu'il en était à réunir son équipe pour être entouré au moment d'une annonce. Le championnat mondial de hockey junior pourrait être de retour à Québec en 2029, a appris le Journal de Québec. Le championnat mondial de hockey féminin de 2027 pourrait aussi être présenté ici et une annonce pourrait venir en ce sens-là dans les prochaines semaines. Et feu à Los Angeles, un nouveau bilan fait maintenant monter le nombre de morts à 24. Plus de 12 000 bâtiments auraient été endommagés pour le moment, selon des estimations des autorités. 60 pompiers canadiens doivent aujourd'hui quitter vers la Californie pour venir en renfort.
Ça bouge énormément chez les libéraux, autant du niveau fédéral. En ce moment, on se demande qui va se présenter à la course à la chefferie. Course à la chefferie du côté provincial, bien ça commence officiellement aujourd'hui. Et on va parler de tout ça avec notre chroniqueuse politique, Jacinthe-Ève Harel, qui est avec nous en studio. Bon lundi matin,
bon
Jacinthe-Ève.
Bon lundi.
Merci d'être là encore. On se voit souvent de ce temps-ci, en ce début d'année, mais c'est parce que ça bouge puis ça brasse.
Ça bouge en politique, bien sûr.
Ça, c'est une bonne chose. C'est fun, jaser de tout ça.
Ben oui.
Commençons du côté fédéral. La dernière fois qu'on s'est parlé, on disait que le mot d'ordre chez les libéraux, c'était la réflexion. Je me présente tout, je me présente pas. Bon, il y a 350 000 à ramasser. Ça va être quoi notre équipe? Ça va être quoi notre plan d'attaque? Finalement, est-ce que tu es surprise qu'il y a pas mal de noms qu'on pensait peut-être de la course, qui se sont je vais pas dire retirés, mais qui ont décidé de pas y aller. Les Dominique Leblanc, les Stephen McKinnon, les Mélanie Joly, les Anita Anand. C'est quand même une belle brochette de candidats possibles qui ont décidé de pas se lancer dans cette course-là.
Oui, ils ont décidé de pas se lancer dans la course au suicide.
Oui, c'est ça, hein, qui arrive.
C'est ça, hein. 350 000 par les fenêtres, puis après ça, justement, une raclée aux prochaines élections.
Oui, possiblement. Donc, c'est sûr que ça a joué dans leur prise de décision. Il y a aussi le fait que, en plus du contexte politique qui ne les place pas nécessairement en situation favorable à devenir à court terme premier ministre du Canada lors des prochaines élections fédérales qui s'annoncent difficiles pour le Parti libéral du Canada. Il y a aussi l'idée qu'ils sont très collés sur l'image de Justin Trudeau, très collés sur ce bilan-là. Alors, c'est probablement plus sage de laisser passer du temps et de peut-être se représenter éventuellement plus tard lorsqu'il y aura un certain détachement qui sera fait dans nos mémoires individuelles et collectives, parce que pour le moment, on les associe vraiment à l'administration Justin Trudeau.
Ben, Jeff avait sorti une super théorie quand même, puis je veux te lancer ça un peu la semaine dernière, quand il disait à quelque part, si quelqu'un se présente et gagne la course à la chefferie en ce moment, en sachant qu'est-ce qui s'en vient contre les conservateurs, qu'il y aurait comme un genre de d'entendre, je vais dire, entre guillemets.
Pas le choix du côté des dirigeants du parti de dire « Hey, écoute, on comprend que le prochain résultat, c'est pas le tien. »
Oui, 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 absolument. Absolument, mais est-ce que la stratégie au sein du Parti libéral du Canada sera d'avoir quelqu'un par intérim ou quelqu'un en qui on mise pour l'avenir?
C'est ce qu'on sait pas, hein?
C'est ce qu'on sait pas. Et avec certaines candidatures, on pourrait penser que la stratégie sera de miser sur l'avenir et pas d'avoir un intérim. Je pense, par exemple, à l'ex-première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, qui s'est montrée intéressée. Elle n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, mais elle y songe. Alors, si elle pouvait, si, admettons, le Parti libéral du Canada, les membres choisissaient que c'est elle la prochaine chef, bien déjà, elle incarne quelque chose de complètement différent que l'administration Trudeau. Donc, ça pourrait être le cheval du long terme sur lequel on mise au Parti libéral du Canada en se disant, bien, de toute façon, elle incarne déjà pas cette administration-là. Elle a soutenu la candidature de Jean Charest au Parti conservateur du Canada parce qu'il y avait une course au leadership au Parti conservateur du Canada en 2022. Elle a soutenu Jean Charest. Donc, elle est associée à un libéralisme économique, mais qui pouvait se prêter très bien au jeu du Parti conservateur du Canada sous l'ère Charest, sous l'ère hypothétique Charest. Donc, ben, à ce moment-là, ben, ça serait complètement différent. Mais c'est sûr que si on y va avec un Mark Carney, ben, là, on est absolument, complètement dans l'idéologie de Justin Trudeau, l'idéologie économique, mais aussi sociale, parce que Mark Carney, c'est un mondialiste. Alors, dans le même trempe que Justin Trudeau, on est dans les politiques de mondialisation, on est dans les politiques multiculturelles, on est dans les politiques aussi de lutte au changement climatique énormément. Donc, tout le programme de Justin Trudeau va être sous la bonne gouverne de Mark Carney. On va avoir une belle continuité si ça s'avérait être Mark Carney.
Ça va prendre combien de temps pour le Parti libéral du Canada de se remettre des 10 ans de règne de Justin Trudeau? T'sais, ça va-tu prendre le même nombre d'années, 10 ans, deux élections? Comment tu vois ça? Puis là, peut-être qu'on le voit différemment. Justement, c'est Christy Clark, ça pourrait prendre seulement 4-5 ans, puis tout de suite, on est en selle aux prochaines élections. Comparativement, justement, c'est Mark Carney ou Chrystia Freeland?
Oui, je pense vraiment que ça va dépendre de qui va assumer le leadership puis la chefferie du Parti libéral pour avoir un impact réel sur le temps de remise sur pied de ce parti-là. C'est sûr que si on reste dans la continuité de Justin Trudeau, ça sera long, la pente sera longue à remonter. Mais si on incarne vraiment un véritable changement, puis on s'éloigne là, des grandes idéologies qui ont été menées par Justin Trudeau, bien, on pourrait revoir une remontée plus rapide.
Mais justement, dans ce sens-là, puis tu sais, il y a personne qui va pouvoir dire ça ouvertement au Parti libéral, mais ce serait-tu une bonne chose de se faire ramasser aux prochaines élections, puis que tout le monde qui est là en ce moment, ou une énorme majorité, quitte la politique, puis que dans 4-5 ans, aux prochaines élections, ben ce soit à peu près 95% de députés qui sont pas là présentement? Ce serait-tu une bonne chose, même si, évidemment, les libéraux pourront jamais dire ça ouvertement?
Bien, c'est certain qu'un grand ménage, parce que c'est ça que j'entends, là, un grand ménage au sein du Parti libéral du Canada, c'est la meilleure chose pour incarner le renouveau. Parce
que ça ne se fera pas naturellement. Falloir manger une volée.
Exactement. Oui, oui. Puis ça, à ce moment-là, on ne serait pas dans le cosmétique puis dans le maquillage là, pour essayer de faire croire que le parti incarne vraiment un vrai renouveau puis un vrai changement. C'est vrai que si la majorité des figures qu'on connaît là, s'il y a une vraie catastrophe électorale...
Une purge!
je n'osais pas le dire. Absolument!
Jacinthe-Ève, on est-tu rendu au point où dans une situation que ça nous prend des élections plus sacrées, là, avec les négociations Trump, la position qu'on projette, position politique, là, avec le gouvernement fédéral, qu'on projette à l'international, on a-tu besoin en ce moment d'élections au plus sacrant pour justement, car on le sait, inévitablement, les conservateurs vont rentrer, Poilievre sera notre prochain premier ministre, puis on peut au moins aller de l'avant pour la suite des choses?
Là. Ben oui, face à l'administration Trump, on a besoin d'être plus solide, on a besoin d'être plus cohérent, on a besoin d'une posture forte, on l'a pas. Donc, avec des élections, au moins, on aurait un négociateur en chef légitime, crédible, élu, fraîchement élu. Mais l'autre chose, c'est que, bon, on verra l'issue de cette course à la chefferie au Parti libéral du Canada. Puis heureusement, hein, on saura l'issue de cette course-là le 9 mars. Donc, ça s'en vient très rapidement pour connaître c'est qui sera à la tête du Parti libéral. Mais imaginons un Mark Carney ou une Chrystia Clark.
Une Chrystia Freeland, tu veux dire. T'as dit
Chrystia Clark. Non, mais je voulais dire Chrystia Clark.
Ouais.
Chrystia Freeland, c'est différent, elle est élue. Donc, mais Mark Carney n'est pas élu.
Oui, c'est vrai.
Chrystia Clark n'est pas élu. Donc, on aurait un premier ministre. Parce que si Justin Trudeau démissionne aussi de ses fonctions de premier ministre à l'issue de la course à la chefferie au Parti libéral du Canada le 9 mars, il a dit qu'il avait l'intention de démissionner à la fois de son poste de chef du Parti libéral, mais à la fois de son poste de premier ministre. Mais si on avait une Chrystia Clark, l'ex-première ministre de la Colombie-Britannique, ou Mark Carney, on aurait un premier ministre du Canada non élu. Et là, ça nous place encore plus en posture risible, ridicule et clownesque face à l'administration Trump qui va dire à regarder le Canada qui est gouverné par un gouverneur du 51e État non élu, le premier ministre du Canada qui serait justement non élu suite à une élection. Ouais. Donc, dans ces circonstances-là, ce serait encore plus pressant. Mais d'une façon ou d'une autre, notre posture est beaucoup trop fragile. Il faut vraiment se recentrer sur l'importance là, d'avoir une posture forte dans la situation géopolitique actuelle.
Quand on parle de posture forte, à quel point une sortie comme Jean Chrétien en fin de semaine avec sa lettre vient faire une différence?
C'est intéressant de voir. J'avais hâte d'entendre des politiciens seniors, des anciens élus, des anciens honorables ou très honorables comme Jean Chrétien se prononcer sur la situation actuelle. Je pense qu'on en a besoin. J'ai toujours pensé qu'en politique, les élus avaient tendance à mettre de côté puis mettre dans le garde-robe les anciens des partis, alors qu'ils ont beaucoup à nous enseigner. Ils possèdent l'histoire, ils la possèdent. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir lu l'histoire, puis l'avoir bien intégré, puis l'avoir vécu.
Oui, puis Jean Chrétien s'était positionné contre les États-Unis avec la guerre en Irak, notamment.
Absolument. Et lui, il l'a vécu. Alors, c'est intéressant de voir qu'il se positionne enfin, puis qu'il dit aux élus des provinces et du Canada, ayez une posture beaucoup plus forte. Là, ça suffit d'être seulement sur la défensive. Il faut être sur l'offensive aussi. Alors oui, cette sortie-là va aider justement peut-être à allumer certaines intuitions chez nos élus ou les candidats à la chefferie. Ça va peut-être allumer certaines intuitions de gens qui pensaient « Ouais, il faut peut-être durcir le ton. » Eh bien là, ça légitime un peu en quelque sorte avec ces conseils.
La semaine passée, tu proposais, puis ta pensée évoluait beaucoup au fil des minutes, quasiment, sur qui serait la meilleure personne pour diriger les négociations avec les États-Unis, tout ça. Puis tu proposais que ce soit peut-être justement quelqu'un de non élu, peut-être un ancien de la politique. Est-ce que tu as encore changé d'idée sur ça pourrait être qui?
Ah oui, bien, je passe mon temps à changer d'idée. Quand j'ai vu la lettre de Jean Chrétien, je me suis dit, coudonc, il serait-tu prêt, lui, à assumer ces négociations-là?
Ouais, il a 91 ans.
Effectivement, mais quand même, il a l'air à être très... il prend ça à cœur, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, on ne sait jamais qui pourrait être intéressé. Mais oui, Raymond Chrétien, je continue de penser que ça pourrait être intéressant, mais Stephen Harper aussi pourrait être quelqu'un d'intéressant pour aller négocier. Je ne sais pas si j'avais mentionné au micro, mais Jean Charest aussi s'est beaucoup positionné sur, sur ces stratégies-là. Mais nécessairement, peu importe le nom que je nomme, là, il y a beaucoup d'options en ce moment pour nous rendre plus crédibles. Ouais. Cela sous-entend très clair. En fait, je ne sous-entends pas. J'affirme, par la présente, j'affirme qu'en ce moment, notre position est tellement faible qu'il y a beaucoup de noms qui pourraient nous rendre plus solides et plus crédibles.
Au niveau fédéral, on se cherche, bien sûr, chez les libéraux, on se cherche un nouveau chef. Au niveau provincial aussi, la course à la chefferie au niveau provincial commence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on surveille?
Oui, Parti libéral du Québec, la course à la chefferie commence aujourd'hui pour se terminer le 14 juin. Donc, en ce moment, on a 4 candidats en liste pour accéder à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais les candidats ont jusqu'au 11 avril pour soumettre leur candidature.
Fait qu'on pourrait en ajouter.
On pourrait en ajouter un 5e, un 6e d'ici le 11 avril, mais on saura l'issue de ça le 14 juin. Donc, ça va être intéressant à suivre. On a des candidats qui nous offrent un beau... une belle diversité de points de vue puis de parcours. On a ce que les médias disent toujours, le favori Pablo Rodriguez. J'aime pas ça mettre dans la tête qui est le favori, mais ouais, c'est le même qui est décrit. Fait que je le dis pour dire que j'aime pas que ce soit dit comme ça.
Mais c'est un fait selon les sondages quand même.
C'est un fait selon les sondages, mais... c'est facile aussi de fabriquer l'opinion. Quand on ne suit pas trop la politique, bien, si on entend dans les médias que le favori, c'est un tel, bien, si on n'est pas super politisé, bien, ça va attirer une certaine catégorie. Remarque que ce n'est pas ces gens-là nécessairement qui sont membres du Parti libéral du Québec qui vont aller voter pour le chef, mais il reste que je trouve que ça fait diriger un peu. Mais oui, il y a Pablo Rodriguez qui représente finalement... ce qu'il représente, hein, c'est un député de longue date, c'est un politicien de carrière qui est installé dans la région de Montréal, donc qui a un point de vue très urbain de la politique, du Québec aussi, qui a un point de vue très montréalais du Québec. Alors, ça sera intéressant de voir si le fameux favori remporte. Bien, on aurait à ce moment-là un éventuel aspirant au poste de premier ministre du Québec qui habite et qui travaille et qui connaît très, très bien la région de Montréal et qui a un point de vue très montréalo-centriste du Québec. Alors, est-ce que c'est ça que le Parti libéral du Québec souhaite avoir? C'est une question fondamentale.
On dirait que c'est pas ton préféré.
Non, c'est ça.
Je sais pas.
Je pense pas que Jacinthe aime le favori présent. Jacinthe aime, tantôt, je disais Frédéric Beauchemin qui se rallie à Pablo Rodriguez, justement. Ouais. C'est un bon coup Pablo Rodriguez parce qu'une faiblesse qu'il avait, c'était l'économie, surtout qu'il était un ministre important dans le gouvernement Trudeau. Es-tu d'accord avec moi?
Absolument, parce que oui, justement, avec son parcours dans un gouvernement extrêmement dépensier avec le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec veut avoir une posture très responsable sur le plan économique. Mm-hmm. Donc, s'allier avec Frédéric Beauchemin, c'est un atout. Ça reste que ça le rend pas mon favori. Un des quatre candidats, on a Denis Coderre aussi,
oui, oui.
Qu'on connaît, qui a été maire de Montréal, qui est vraiment pas le favori des médias, qui est vraiment pas le favori aussi d'une certaine caste au sein du Parti libéral. Il y a une espèce de lavage là, public qui se fait de sa réputation, de ses enjeux financiers personnels, qui démontre qu'il y a des gens qui veulent sa peau. Moi, ça me porte toujours à réflexion à ce moment-là, puis j'ai toujours le jugement un peu plus retiré ou plus... je fais attention à mon jugement parce que je me dis on peut sortir des squelettes du placard de bien du monde. Ouais. Et quand il y a une espèce de campagne comme ça pour salir quelqu'un, je trouve ça dommage sur le plan humain. Donc, on a Denis Coderre qu'on connaît tous. Il y en a un qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est Marc Bélanger. C'est un candidat qui n'a jamais été élu, donc c'est pour ça qu'on ne le connaît pas. Mais c'est un candidat qui représente réellement les régions. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que s'il y en a un qui se démarque des autres, oui, il est moins connu. Il y a peut-être probablement statistiquement moins de chances d'être élu chef du Parti libéral. Quoique, c'est les membres du Parti libéral qui vont voter. Si les membres y ont à cœur de remporter éventuellement les élections provinciales et d'avoir le pouvoir à l'Assemblée nationale et de contrecarrer un parti québécois très fort, bien, ça serait justement d'incarner notamment une politique des régions qui est hautement défaillante dans notre paysage politique. Là, tout parti confondu, les régions sont laissées pour compte depuis longtemps. On a des visions très montréalo-centristes partout dans tous les partis politiques provinciaux en ce moment. C'est mon point de vue, là, mais je l'assume totalement. C'est très déplorable. Tous les partis à l'Assemblée politique, à l'Assemblée nationale en ce moment... ont cette dominance très forte d'une vision très montréalo-centriste, influencée par les médias aussi de Montréal qui, ont le poids médiatique le plus important au Québec. Et c'est vraiment dommage pour toutes les régions du Québec. C'est vraiment dommage pour l'économie du Québec aussi parce que notre économie dépend pas que du pilier de la métropole, dépend aussi des régions, des ressources naturelles, de la vitalité de nos régions. Et quand nos régions se meurent, bien, c'est une partie de notre économie qui se meurt puis qui devient beaucoup plus vulnérable. Puis là, on le voit face à l'administration Trump, à quel point des postures économiques fortes, c'est important.
Jacinthe Tavarez, évidemment, on va, au cours des prochaines semaines, prochains mois, suivre attentivement ce qui se passe du côté provincial avec les libéraux, cette course à la chefferie. Merci de passer nous voir pour commencer la semaine. Jaser politique, on se reparle très, très, très bientôt. Circulation, Max, qu'est-ce qui se passe?
L'accès au pont Pierre-Laporte, là, direction nord, hauteur Rivière-Chaudière, la voie de droite qui est bloquée, un véhicule lourd en panne. C'était déjà un peu compliqué dans le secteur, ça va l'être encore plus.
Merci, Max, et merci pour les informations par texto 88-971-1021. Vous vous souvenez de Mme Chantal, cette enseignante qui avait été enregistrée à son insu en train d'hurler après ses étudiants et étudiantes. Elle s'est retrouvée une autre job. On a vu ça passer dans les médias fin de semaine dernière. On va en jaser avec le prof Sylvain Dancause après la pause. Regent.